Chapitre 17. La Sainte Claire était justement tombée, cette année-là, un dimanche. La Sainte Suzanne, par un rapprochement heureux, était la veille. Philippe, qui, depuis le naufrage de son bonheur, subordonnait toutes ses actions aux nécessités de sa position, n'avait pas cru pouvoir se dispenser de célébrer ce double anniversaire. Il n'avait point reçu depuis qu'il était marié. La maladie de Claire avait pris tout l'hiver et sa convalescence s'était prolongée assez avant dans le printemps pour que le maître de forge pût, aux yeux même des plus soupçonneux, être excusé d'avoir laissé sa maison fermée. L'agitation morale de Claire s'étant, à différentes reprises, trahie assez visiblement, le maître de forge avait résolu de faire montre publiquement de sa tendresse pour sa femme en donnant une fête en son honneur. Depuis 10 jours, les invitations étaient lancées quand la tentative de rapprochement, faite par la jeune femme sur son mari, avait porté à l'état aigu la situation douloureuse qui existait entre eux à l'état chronique. Philippe, découragé, songea un instant à décommander ses invités. Mais on était à la veille du jour choisi. Il compta sur l'énergie de Claire. Il savait que, par fierté, elle était capable de montrer un front riant à tout son entourage. Et le cœur ulcéré, mécontent des autres et de lui-même, le maître de forge se prépara de son côté à faire gaiement les honneurs de Pont-Aven. Enfermée depuis le matin avec la baronne dans son appartement, Claire se prépara à la lutte. Elle voulait plaire. Elle resta étendue dans un demi-jour, se reposant pour avoir le teint vermeil. Elle se soigna comme une courtisane qui veut faire la conquête d'un nabab, ne négligeant aucun des artifices de la toilette et rehaussant, par le charme de sa mise, son incomparable beauté. Elle fit choix d'une robe blanche garnie de valenciennes et ornée de bouquets de roses naturelles. Le corsage, demi-montant dans le dos, laissait voir l'adorable naissance des épaules et, par devant, décolleté, montrait la superbe poitrine dont la blancheur était encore relevée par le ton éclatant d'une guirlande de roses partant du haut du bras et descendant jusqu'au bas de la jupe, entourant la jeune femme tout entière de ses replis embaumés. Ses admirables cheveux blonds étaient massés sur le haut de sa tête, découvrant hardiment sa nuque de neige et portait pour tout ornement un piquet de roses du roi. Elle était si belle ainsi que Brigitte et Suzanne, qui l'avaient habillée elle-même, saisies d'admiration, se mirent à battre des mains. Claire jeta dans la glace un coup d'œil reconnaissant et, frémissante, l'heure étant venue de paraître, elle descendit. Dans le grand salon Louis XIV, Philippe, en habit noir et en cravate blanche, et le baron, les manches de sa jaquette retroussées et les mains toutes jaunes, causaient sous le feu des lustres allumés. La baronne, qui entrait avec Claire, poussa un cri de désespoir. Hé, mon ami, d'où sortez-vous dans cet état et à pareille heure? Et quelle main avez-vous? Excusez-moi, cher ami, dit le baron, rougissant comme un écolier pris en faute. Je me suis un peu attardé au laboratoire, et c'est un bain d'iode que j'ai renversé par mégarde qui m'a légèrement teinté les doigts. Légèrement? S'écria la jeune femme. Mais c'est une horreur! Vous ne serez pas présentable! Vous avez l'air d'un photographe! Le baron se mit à rire. Cela va s'en aller très bien, je vous assure. Et il se dirigeait du côté de sa femme. Ne m'approchez pas! Dit celle-ci en reculant avec effroi. J'ai une robe neuve. Vite, allez vous habiller. Vous avez juste le temps. Le baron, heureux d'en être quitte à si bon compte, disparut comme un sylphe. Philippe regardait Claire. Dans toute la splendeur de sa beauté, elle s'avançait vers lui. Elle était rayonnante et nulle trace de ses soucis ne se voyait sur son visage. En lui-même, le maître de forge admira la fermeté d'âme de la jeune femme. Il pensa qu'elle était vraiment vaillante et il lui sut gré de faire si brillamment son devoir. Lui adressant un sourire qui la fit pâlir de joie, il s'approcha d'elle, tenant dans sa main un écrin de cuir noir sur lequel étaient gravées les initiales C.D. « Vous êtes assez pauvre en bijoux, lui dit-il en s'inclinant. À l'époque de notre mariage, je n'ai pas su me procurer tout ce que je désirais pour vous. Laissez-moi donc réparer cette négligence. » Et il tendait l'écrin. Claire, interdite, hésitait à le prendre. La baronne s'en saisit vivement, l'ouvrit, et, en tirant une merveilleuse rivière en diamants, elle la fit, avec des cris de joie, étinceler à la lumière. « Oh, Oh, ma chère, vois donc, c'est un cadeau princier !» Le front de Claire se rembrunit. C'était un cadeau princier, en effet. La jeune femme pensa aux 40 000 francs en or, produit prétendu de sa dot, qui dormait dans un tiroir de son beau meuble d'ébène. Elle les ajouta à la somme énorme qu'avait dû coûter le collier, et elle se sentit humiliée au plus profond d'elle-même. Quelle leçon de générosité Philippe lui donnait encore! L'argent, qui avait été son suprême argument à elle, il le dépensait, lui, avec une indifférence royale, semblant n'en faire aucun cas, quoiqu'il eût gagné par un travail acharné. « Allons, Philippe, attachez-le-lui vous-même au cou, ce signe d'esclavage. C'est bien le moins que vous puissiez faire, » dit malicieusement la baronne. Puis, se tournant vers son mari qui entrait, vêtu avec une correction parfaite, « Vous qui cherchez toujours des petits cailloux, mon cher, tâchez donc d'en trouver quelquefois dans ce genre-là. » Le maître de forge attachait d'une main tremblante le ruban d'argent, orné de pierres étincelantes, sur les épaules de sa femme. Il effleura des doigts cette peau satinée, et il la vit frissonner à son contact. « Allons, allons, reprit la baronne, un jour comme celui-là, c'est de règle, on s'embrasse. » Et elle poussa Claire dans les bras de Philippe, devenu pâle comme un mort. Le maître de forge approcha ses lèvres du front de sa femme, et la gorge serrée par l'émotion, les yeux troublés, se demandant avec angoisse s'il allait s'évanouir, il prit le plus froid et le plus désiré des baisers. Puis, brusquement, il passa dans le salon voisin, avide de s'arracher à la captivante douceur de ce rapprochement. Claire n'avait pas, jusqu'ici, pu juger complètement l'importance de la position de son mari. Partout où il allait, elle le voyait accueilli avec déférence et empressement. Ce fut en recevant chez elle tout ce que le département comptait de gens considérables qu'elle comprit de quelles influences le maître de forge disposait. Le dîner réunit M. Monico, le préfet républicain à transformation, sachant mitiger ses opinions quand il allait dans le monde, le procureur général, homme grave et compassé, le trésorier payeur, ancien viveur, très aimable, et le général commandant la division. Toutes les autorités civiles et militaires. Le métropolitain de Besançon, Monseigneur Pargis, à qui Philippe avait fait don d'une grille admirable pour le cœur de la cathédrale, avait consenti à se déplacer, ce qu'il ne faisait pour personne. Et, assis à la droite de Claire, ce vieillard souriant avait, avec une grâce charmante, affronté la présence de M. le préfet du Doubs, qui avait implacablement exécuté les décrets. Athénaïs, décomposée par l'envie, assista au triomphe de sa rivale. Claire, soutenue pour la première fois par le regard de son mari, retrouva sa confiance. Elle causa avec esprit, trouvant le mot juste pour flatter l'amour-propre de chacun de ses convives. Elle se sentait admirée par Philippe et, dévorée par le désir de lui plaire, elle déploya toutes les ressources d'une intelligence supérieure. Le duc fut frappé de son rayonnant éclat. La jeune femme, tendue dans un effort de volonté suprême, fut véritablement éblouissante. Bligny, fasciné, se laissa aller à la contempler avec une admiration qui ne fut pas assez dissimulée. Les yeux fixés sur elle, il oublia tout ce qui l'entourait. Sa passion surexcitée lui fit perdre toute mesure. Il ne vit pas Philippe qui l'observait avec une attention menaçante. Et d'ailleurs, que lui importait un mari ? On savait depuis longtemps qu'il était homme à lui prendre la vie après lui avoir pris l'honneur. Moulinet, quoiqu'il fût très occupé à entortiller le préfet qui se laissait aller, avec un abandon plein de révélations sur son passé riche en privations ou jouissances de la bonne chère, fut frappé de l'attitude de Bligny. Il n'avait pas été sans remarquer que le duc, depuis son retour, s'occupait beaucoup trop de Claire. Il n'attachait aucune importance, en général, à ces marivaudages du jeune homme. Mais dans ce cas spécial, il se sentait pris d'une vive inquiétude. Le maître de forge était une puissance et, à la veille des élections, il fallait le ménager. Il se promit de parler à son gendre. La duchesse, placée auprès de Philippe, s'efforçait par son babil d'attirer son attention. Elle le trouva distrait, froid, préoccupé. La marquise de Beaulieu, assise à la droite du maître de forge, était très tourmentée par la chaleur des lustres et de son éventail, elle s'efforçait de se protéger le front. Philippe, obligé de se dépenser à droite et à gauche et d'être à tout le monde, souffrit horriblement de voir le duc regarder Claire. Il lui sembla que les yeux de Bligny, errant sur les épaules nues de la jeune femme, les souillaient de chimériques caresses. Une colère terrible s'empara de lui. Il connut tous les tourments de la jalousie, et il rêva la jouissance profonde de tuer cet homme qui, lui ayant déjà fait tant de mal, le torturait encore si cruellement. Les paroles futiles d'Athénaïs, ardentes à l'accaparer aux yeux de tous, le fatiguaient, et il souhaita ardemment d'être délivré de ces deux êtres odieux. Le souvenir des prières de sa femme, lui demandant d'éloigner le duc et la duchesse, lui revint. Il comprit la lassitude de Claire en butte à la haine de la femme et à l'amour du mari. Il résolut de la délivrer de l'une et de l'autre. Mais éloigner le duc ne lui suffisait déjà plus. Il le haïssait trop. La fin du dîner fut un soulagement pour lui. Sur la terrasse, il faisait une fraîcheur délicieuse. Une charmante surprise y attendait Claire. Tous les massifs du parc étaient illuminés et des guirlandes de fleurs couraient sur toute la façade du château. Moulinet avait ravagé ses serres pour la circonstance et une corbeille, large de 3 mètres, en joncs tressés et dorés, était remplie des plus admirables variétés d'orchidées. Mon jardinier s'est arraché les cheveux en la voyant partir de la Varenne, disait d'un air détaché, entre haut et bas, à ceux qui le complimentaient, l'ancien juge au tribunal de commerce. Cependant, il ne perdait pas de vue son gendre qui avait réussi, en manœuvrant avec art, à séparer Claire du groupe des jeunes femmes et à la bloquer dans un coin propice. Là, ces deux êtres qui s'étaient aimés échangèrent en souriant les plus dangereuses paroles. Le duc, passionné, avide de se concilier les bonnes grâces de la jeune femme, faisant l'éloge de sa beauté et protestant de son amour, Claire, farouche, violente, voulant se dégager d'un tête-à-tête qui la faisait trembler, et élevant peu à peu la voix au risque d'attirer l'attention de Philippe. Alors Bligny changea de tactique. Il se fit doux et mielleux. Il ne parla plus que d'amitié. Il demanda à Claire de lui abandonner seulement sa main en signe de pardon. Et, en disant ces mots, ses yeux, démentant son langage, flambaient pleins de passion. Il se rapprochait peu à peu. Un instant, enhardi par la demi-obscurité, il serra Claire de si près que celle-ci s'écria « Prenez garde, si vous ne vous éloignez pas, au risque d'un éclat, j'appelle mon mari !» Le duc avait porté l'exaltation de la jeune femme à un point extrême. Ce fut Moulinet qui sauva pour l'instant la situation. Il vint, en souriant, se mettre en tiers entre Bligny et Claire, entrant en matière par un de ces lieux communs auxquels il excellait et qui agaçait supérieurement son gendre. « Comme le ciel est pur !» dit l'ancien juge au tribunal de commerce avec un air élégiaque. « La lune est à son premier quartier. Il fera beau toute la semaine. » Le duc regarda Moulinet de travers. Claire, profitant de la diversion, s'échappa avec un vif soulagement. Bligny fit un pas pour la suivre. Son beau-père, d'un geste solennel, l'arrêta et, l'emmenant au bord de la pièce d'eau, « Monsieur le duc, dit Moulinet, je constate avec chagrin que vous abusez singulièrement des bonnes relations que je m'efforce d'entretenir avec Monsieur d'Herblay pour... »« Pour ?» répéta le duc en regardant Moulinet de haut en bas avec une remarquable impertinence. « D'abord, s'écria l'ancien juge au tribunal de commerce, perdant pour la première fois patience. « Veuillez, je vous prie, mon gendre !» Et il appuya fortement sur ce vocable particulièrement désagréable à Bligny. « Veuillez cesser de prendre, vis-à-vis de moi, un certain ton gouailleur que je ne suis plus disposé à supporter. » Monsieur Moulinet se révolte, il lève l'étendard de la magistrature consulaire, dit le duc en riant. « Monsieur Moulinet vous trouve tout à fait inconvenant, reprit le beau-père d'un ton plus haut. « Et à son égard, et à l'égard de votre hôte, dont vous courtisez la femme d'une façon scandaleuse. « Madame, votre fille, me ferait-elle la faveur de s'en plaindre ?» demanda le duc en affectant une politesse exagérée, plus irritante encore que son persiflage. « Ma foi, non, dit Moulinet. Elle paraît même se soucier fort peu de votre fidélité, et je la comprends. « Eh bien, alors ?» fit railleusement le duc. Moulinet se mit de 3/4 et foudroyant son gendre du regard. « Et la morale, monsieur » dit-il. « Oh, la morale de la rue des Lombards ? répliqua le duc en faisant un geste d'insouciance. Moulinet prit un air important. « La rue des Lombards a bien sa valeur, scanda-t-il. Vous en savez quelque chose ?»« Oh, fi, monsieur Moulinet !» s'écria le duc. « Ne remuez pas ainsi vos gros sous. On sait que vous êtes riche. » Et, toisant avec dédain l'ancien juge au tribunal de commerce, « C'est votre unique mérite, n'en abusez pas. » « Mon mérite, en ce cas, dit Moulinet, perdant tout à fait son calme, a sur le vôtre cet avantage qu'il augmente tous les jours. Du reste, je suis bien bon de m'intéresser à vous. Poursuivez votre coupable entreprise. Le seul résultat que vous obtiendrez sera de vous faire une bonne querelle avec le mari, et je vous préviens d'avance que toutes mes sympathies seront de son côté. »« Parfait, dit le duc. « S'il vous tue, continua Moulinet qui s'animait en parlant, vous n'aurez que ce que vous méritez. » Le jugement de Dieu. Nous vous ferons faire, ma fille et moi, des funérailles dignes de notre fortune et nous irons vous pleurer à Monaco et au bain de mer pendant le délai légal. Enfin, un deuil gai. Outré du dérèglement de vos passions. Ah, monsieur Moulinet, terminons. Interrompit le duc avec hauteur. Je ne demande pas de conseils et je n'accepte pas de leçons. Pendant quelques minutes, votre pédantisme prudomesque m'a amusé, mais en voilà assez. Très bien, monsieur, dit Moulinet, dominé par l'insolence du duc. Faites à votre guise, je m'en lave les mains. Et, agitant sa tête d'un air digne, le beau-père remonta vers les salons. Un grand mouvement venait de se produire sur la terrasse. Suzanne était venue en courant trouver son frère, qui causait avec le procureur général et le préfet, et un peu haletante, très émue. C'est une députation des ouvriers, dit-elle. Ils sont 10, ils demandent la permission d'approcher. Mais comment donc, s'écria le préfet, dans lequel le démocrate, fouetté par ces mots, députation d'ouvriers, se réveilla. Une petite démonstration populaire, c'est parfait. Il va demander qu'on joue la Marseillaise, murmura le trésorier payeur en souriant. Philippe s'était avancé vers les ouvriers. Ah, c'est vous, Gobert, dit-il, en reconnaissant son plus ancien contremaître, vêtu de ses habits des grands jours, le chapeau à la main et portant un énorme bouquet, en souriant d'un air inquiet. « Arrivez donc, mon brave, et vous aussi, mes amis !» Gobert, grand vieillard aux cheveux blancs, resta planté sur ses jambes, médusé par la vue de tout ce monde élégant, qui, rangé sur la terrasse, l'examinait avec curiosité. « Va donc !» murmuraient ses camarades rangés derrière son dos. « Va donc !» puisque c'est toi qui dois parler. » Mais lui, paralysé par une émotion invincible, regardait, les yeux écarquillés, immobile, comme s'il eût été changé en pierre. Ce fut Suzanne qui rompit le charme en venant gentiment prendre par la main le vieil ouvrier qu'elle connaissait depuis qu'elle était née et en le conduisant devant Claire. Le contremaître s'inclina devant la jeune femme et, très troublé, cherchant ses mots, quoiqu'il eût appris son petit discours par cœur, « Puisque le patron le permet, Madame d'Herblay, dit-il, daignez accepter ce bouquet que je suis chargé de vous offrir au nom de tous les camarades en vous souhaitant votre fête. Il faut que vous sachiez qu'à Pont-Aven, nous sommes 1800 qui devons ce que nous avons à votre mari, qui nous a bâti des maisons, des écoles, une infirmerie, qui nous traite comme ses enfants. Et voyez-vous, nous vous sommes reconnaissants du bonheur que vous lui donnez. » La parole s'étrangla dans la gorge de Gobert, gagnée par l'attendrissement. Des cris et des applaudissements éclatèrent avec force. Le préfet avait donné le signal en se tournant vers les jeunes époux avec un sourire plein d'approbation. Claire, en entendant le contremaître parler du bonheur qu'elle donnait à Philippe, avait tressailli. Ainsi, de tous côtés, partout et toujours, cette louange ironique lui arrivait. Le tumulte s'était apaisé. Gobert, débarrassé de son bouquet, restait toujours planté devant monsieur et madame d'Herblay. « Mais, reprit-il, j'ai autre chose à dire. Le pays va être appelé à élire un député. » À ces mots, Moulinet fit un pas en avant, comme s'il était directement mis en cause. Le préfet se redressa et lança autour de lui un regard plein d'autorité. « Et nous venons, continua Gobert, prier le patron de se laisser porter dans la circonscription de Pont-Aven. » Moulinet poussa un immense soupir de soulagement. « La circonscription voisine de la mienne » s'écria-t-il. « Bravo !» Une tempête de hurrahs et d'exclamations partant de la grille de la cour d'honneur fit écho à la voix du vieux contremaître. Les ouvriers de l'usine, endimanchés, avec leurs femmes et leurs enfants, se pressaient sur la place, assistant de loin à la manifestation qu'ils avaient préparée. « Ouvrez la grille, dit Philippe, que tout le monde entre !» En un instant, un flot joyeux se répandit dans les parterres, débordant dans le parc, sous les lanternes vénitiennes qui éclairaient de leurs lueurs multicolores les allées profondes et les ronds-points mystérieux ornés de statues. « Ces braves gens ont eu une excellente pensée, dit le préfet gracieusement. Monsieur d'Herblay est des nôtres. C'est un libéral dans la plus généreuse acception du mot. Pour tous, son nom signifie « science, probité, travail et liberté ». « Voilà une candidature que j'appuie, » répétait Moulinet. « À nous deux, nous tiendrons l'arrondissement. Je vais travailler mes fermiers. Comité, réunion, discours, c'est mon affaire. Nous enlèverons l'élection haut la main. » « Eh bien, mon cher préfet, il me semble que nous faisons un peu de candidature officielle, » dit derrière le majestueux Monico une voix martiale. Le préfet se retourna, comme si on lui avait marché sur le pied, et se trouva nez à nez avec le général qui le dévisageait d'un air goguenard. Le représentant de l'administration civile adressa un sourire au représentant de l'administration militaire. « Eh bien, mon cher général, quand on a si bien dîné chez les gens, on ne peut pas avoir l'air de les combattre au dessert. Politesse de digestion. » Puis, pivotant sur ses talons, il murmura entre ses dents « Prétorien, va !» « J'accepte, mes amis, disait Philippe, l'honneur que vous me faites. Non dans un but d'ambition, vous savez que je recherche peu les occasions de me mettre en avant, mais parce que j'espère, une fois de plus, pouvoir vous être utile. » Il y eut un grand tumulte. Des cris s'élevaient de la foule et pendant 2 minutes, on ne vit que des bras agitant frénétiquement des chapeaux et des casquettes. Puis le bruit tomba peu à peu. Claire s'était avancée à son tour. « Quant à moi, mes amis, dit-elle, je vous remercie du fond du cœur de votre bonne pensée. Et vous, Gobet, puisque vous êtes le plus ancien de l'usine, pour tous vos camarades, venez m'embrasser. » Et, gracieuse, souriante, elle tendit la joue au vieux contremaître bouleversé, au supplice dans sa redingote noire un peu juste et devenue tout rouge sous ses cheveux blancs. Gobert s'approcha et, avec autant de précaution que si le doux visage de Claire eût été brûlant, comme le fer rouge que l'ouvrier était habitué à marteler, il embrassa la jeune femme. « Oh, madame !» dit le brave homme, ne pouvant retenir une larme. « Les d'Herblay ont toujours été de braves gens, et vous êtes bien digne d'être de la famille. » Claire jeta à son mari un regard de triomphe. Les paroles de l'ouvrier lui semblèrent avoir attaché les liens qui l'unissaient à Philippe. Athénaïs ricanait en chuchotant avec la Brède et du Tremblay. « Eh bien, mais c'est tout à fait charmant. Nous nageons dans le socialisme. » Une acclamation énorme coupa la parole à la duchesse. Philippe venait de donner ordre de rouler quelques pièces de vin dans un rond-point du parc et il avait envoyé chercher la fanfare du pays. En un instant, une estrade fut improvisée avec des planches. Et, hissée sur cet échafaudage, les musiciens firent entendre les notes criardes de leurs instruments. Les vignerons de la côte, attirés par le bruit, se mêlaient aux ouvriers de l'usine et la vieille hostilité qui divisait le pays en 2 camps était en voie de disparaître. Dans les grandes allées, à la lueur des lanternes multicolores qui éclataient comme des fleurs fantastiques dans la sombre verdure des arbres, cette multitude agitée et bruyante semblait une noire fourmilière. Soudainement, la nuit fut traversée par un éclair brillant et la première bombe d'un feu d'artifice, commandée et préparée avec grand mystère par le baron, éclata bruyamment dans les airs, jetant sur la foule ébahie une pluie éblouissante d'étoiles d'or. Puis les fusées sillonnèrent l'espace de leurs traînées de feu et les taillis du pack s'illuminèrent des clartés vertes et rouges des feux de Bengale. Les musiciens s'étaient arrêtés et leurs instruments sur leurs genoux, aux premières loges de l'estrade, ils suivaient le vol capricieux des serpenteaux et le surprenant jaillissement des chandelles romaines. Le délicieux du Tremblay, qui ne manquait jamais l'actualité, fredonnait une voix aigre les premiers mots de la chanson bien connue. Petit Pierre, hausse-moi, que je vois la fusée volante. » Le préfet, se tournant vers Moulinet, lui dit avec enthousiasme « Voyez-vous comme le rouge fait bien dans les feux d'artifice, quelle belle couleur !»« J'aime aussi beaucoup le vert, » répondit l'ancien juge qui n'avait pas saisi l'allusion. « C'est la couleur de l'espérance, » dit gracieusement le trésorier payeur en saluant Moulinet. Le père de la duchesse comprit. Il était lucide pour ce qui touchait à ses intérêts. Il regarda l'ancien viveur avec bienveillance. Il le trouva un homme très comme il faut. Du reste, celui-ci avait la plus belle paire de chevaux du département. « Eh bien, monsieur Moulinet, » dit le baron qui s'était approché, « cela va bien? Vous paraissez enchanté. » « Oui, baron, » répondit l'ancien juge avec expansion. « Ce luxe, ces fêtes, cette animation, tout cela m'enchante. J'étais né pour la haute vie. Mes goûts protestent contre l'injustice de mon origine. »« Votre esprit suffirait à la faire oublier, » dit Préfon avec un sang-froid imperturbable. Une rougeur immense illumina le ciel. C'étaient les pièces principales qui s'allumaient. Sous un portique flamboyant, un petit enfant, dessiné par des feux roses, couronnait une grande femme silhouettée par des feux blancs. « L'amour couronnant l'industrie, » dit le baron, qui se crut obligé d'expliquer l'allégorie. « Connu, » murmura le majestueux Monico à l'oreille du procureur général. « L'année dernière, à Neuchâtel, où j'étais sous-préfet, on nous a servi l'enfant rose et la femme blanche, le soir de la fête nationale, sous ce titre, « L'avenir couronnant la France. »« Et moi, » dit gaiement le trésorier payeur, « je les ai vus figurer, autrefois, dans un feu d'artifice tiré à Ville-d'Avray, pour la fête du docteur Thompson, l'illustre accoucheur, sous cette désignation, l'enfance couronnant la médecine. » Un bruit terrible et une aveuglante clarté coupèrent la parole aux invités. Le bouquet, une gerbe embrasée, montait dans le ciel, s'étendant au-dessus des spectateurs comme une voûte de feu. Une grêle de baguettes noircies tomba sur la tête des plus avancés, au milieu des cris et des rires. Puis le ciel redevint sombre et le parc, doucement éclairé par les lanternes vénitiennes, reprit son aspect. Comme si une main invisible eût donné le signal, les instruments de la fanfare rugirent tous ensemble, jetant au vent de la nuit les premières mesures du quadrille. Puis un silence succéda, pendant qu'une voix gouailleuse de gamin criait « En place pour la contredanse !» Athénaïs fut soudain prise d'un caprice de grisette. Elle eut une folle envie d'aller danser au milieu de ses paysans. Ce fut tellement impérieux que, les yeux brillants, les joues animées, elle se tourna vers Philippe et, se penchant vers lui, « Oh, monsieur d'Herblay, ouvrons ce bal champêtre, ce sera charmant. Venez, vous danserez avec moi !» Philippe resta immobile, hésitant entre le désir de refuser et la crainte d'être impoli. Il échangea un coup d'œil avec Claire. La jeune femme avait pâli en assistant à cette nouvelle et provocante tentative de la duchesse. Elle jugea que la mesure était comble. Et puis, elle s'était jurée elle-même de ne plus permettre qu'Athénaïs s'emparât de Philippe. Elle restait cependant indécise, anxieuse, craignant de déplaire à son mari. Une voix railleuse retentit à son oreille, la voix borée du duc. « Vous voyez ?» disait-il. Et d'un geste, il montrait Athénaïs penchée vers Philippe et le tenant sous le regard caressant de ses yeux. Claire frémit de douleur et de honte. Sa souffrance fut décuplée par cette imprudente intervention du duc. À ce moment précis, comme si leur destinée se décidait enfin, les yeux de Philippe rencontrèrent ceux de Claire. La jeune femme, dans ceux de son mari, vit si nettement la contrainte et la lassitude qu'elle fut comme entraînée par une force irrésistible. Elle fit trois pas et, touchant légèrement le bras d'Athénaïs qui répétait « Nous ouvrons le bal ensemble, n'est-ce pas ?»« Pardon si je contrarie tes projets, » dit Claire froidement, « mais je voudrais causer un seul instant avec toi. »« Causer ?» fit la duchesse avec une surprise mêlée d'ennui. « Comme cela, tout de suite ?» Tout de suite, appuya Madame d'Herblay. C'est donc urgent? Tout à fait urgent. Athénaïs dévisagea son ennemi. Claire soutint ce regard avec une telle fermeté que la duchesse, troublée, pressentant quelque grave incident, baissa les yeux et d'une voix doucereuse. Qu'y a-t-il donc, ma chère belle? demanda-t-elle en essayant de prendre la main de Claire. « Suis-moi, tu le sauras !» répondit durement Madame d'Herblay. Et sans ajouter un mot, sans se tourner vers Philippe, Claire résolue, mais le cœur palpitant, entraîna Athénaïs dans le petit salon désert. Elles restèrent pendant une seconde, debout, comme deux adversaires présents à venir aux mains. Au loin, sous la feuillée, l'orchestre improvisé commençait à jouer, et le bruit sourd de la foule excitée arrivait jusqu'au château par bouffées confuses. Tous les convives étaient descendus dans le parc. Athénaïs et Claire, livrées à leur seule force, étaient encore une fois en présence. « Asseyons-nous, veux-tu ? » dit Madame d'Herblay d'une voix brève. « Ce sera donc long ? » dit la duchesse en étouffant à demi un impertinent bâillement. « J'espère que non, » répliqua Claire. Athénaïs s'étendit dans un fauteuil. Elle allongea une jambe, fixa les yeux sur la pointe ornée de jais de son soulier et le fit miroiter lentement à la lumière des lustres, paraissant n'attacher aucune importance à ce que Claire avait à lui dire. « Il s'agit d'une faveur que j'ai à te demander, » reprit Madame d'Herblay. « Serais-je assez heureuse pour pouvoir te servir ?» demanda Athénaïs avec nonchalance. « Oui, » l'autre jour, à cette chasse dans la forêt, quand tu as emmené mon mari avec toi, tu m'as demandé si cela ne me déplaisait pas et si je n'étais pas un peu jalouse. » La duchesse frappa un petit coup sec avec son talon sur le parquet et dit « Je plaisantais. » « Eh bien, tu avais tort, » déclara Madame d'Herblay, « car tu disais vrai. » Athénaïs, extrêmement étonnée, cessa de s'étendre dans son fauteuil et se tint sur ses gardes. « Toi ?» « Jalouse ? » dit-elle. « Oui. »« De moi ?» appuya la duchesse. « De toi ?» répéta Claire, et avec un sourire contraint, elle ajouta. « Tu vois que je suis franche. Il me semble que mon mari s'occupe de toi plus qu'il ne convient, et je m'adresse directement à toi pour que tu mettes un terme à une assiduité à laquelle tu n'attaches évidemment aucun prix et qui m'est très pénible. » « Oh, chère petite !» s'écria Athénaïs, se tournant vers Claire avec une vivacité pleine du plus tendre intérêt. « Comment, tu souffrais et tu ne disais rien ? Mais n'exagères-tu pas un peu ? Je ne me rappelle vraiment rien qui ait pu motiver ton ennui. Monsieur d'Herblay est fort aimable, il paraît avoir du plaisir à causer avec moi, mais cette sympathie entre gens de la même famille n'est pas surprenante et n'a rien de criminel. J'en souffre. » dit Claire avec insistance. La petite duchesse se dressa et, d'un ton pointu comme une vrille, « Ma chère amie, c'est à ton mari qu'il faut demander le remède à ton mal. Moi, je n'y peux rien. Si, tu peux couper court à cette intimité. » Athénaïs se laissa retomber languissante au fond de son fauteuil. Elle voyait maintenant où Claire voulait en venir. Ainsi, c'était un désarmement qu'elle demandait. La jeune femme adoucit toutes les aigreurs de sa voix et, avec une aménité plus exaspérante que sa raideur passée, « Et comment y pourrais-je arriver ? En accueillant mal ton mari ? D'abord, ce serait m'imposer un rôle bien désagréable. Et ensuite, crois-tu le moyen bien efficace ?» Elle souriait en parlant ainsi avec l'air de bravade d'une femme sûre de son ascendant. Aussi, reprit Claire avec sa tranquille sérénité, « N'est-ce pas cela que je veux te proposer ? Qu'est-ce donc ?» Madame d'Herblay hésita un peu, puis hardiment, « C'est de t'éloigner pour quelque temps de notre maison. » Athénaïs bondit et, cessant de se dominer, « Y songes-tu » cria-t-elle. « Oui, » dit Claire avec autant de douceur que sa rivale avait d'âpreté, « et c'est sur le ton de la prière que je te le demande. » « Accuse-moi d'être folle, mais fais cela, il y va de mon bonheur. »« Et sous quel prétexte veux-tu que je m'éloigne ?» reprit Athénaïs. « Que dirait-on d'une séparation si brusque qu'elle ressemblerait à une rupture ?»« Nous nous chargerons de l'expliquer d'une manière satisfaisante. » L'insistance de Claire embarrassa beaucoup Athénaïs. Elle pensa que Madame d'Herblay était plus forte qu'elle n'avait cru, et que, si elle se laissait entraîner à la moindre concession, tout était perdu. Elle résolut de trancher dans le vif. « Nous pouvons ne pas réussir, dit-elle, et ce serait désastreux pour moi. Tu as été franche, je vais l'être. Je suis nouvelle dans le monde où m'a fait entrer le duc de Bligny, je m'y plais et je tiens à y garder la place que j'ai déjà su m'y faire. Mais on y est très rigoriste. Aussi, tu comprends que si la famille de mon mari me fait froide mine, on trouvera là une occasion de me discuter. Je suis si jalousée. Et adieu mes rêves. Si tu as ton amour, moi j'ai mon ambition. Je comprends que tu tiennes à protéger l'un, souffre que je défende l'autre. » Claire se mit à trembler. Elle ne se contenait plus qu'avec peine. L'envie lui venait de saisir cette misérable et de l'écraser. « Ainsi, tu refuses ? » dit-elle d'une voix étouffée. « À contre-cœur, mais en conscience, mets-toi à ma place. » Et l'ironie était tellement vive qu'Athénaïs ne put réprimer un sourire. Claire s'avança et, cessant de dominer sa colère, « Que je me mette à ta place ? » fit-elle avec violence. « C'est toi qui t'es mise à la mienne et qui veux t'y mettre encore. Depuis que je te connais, tu me poursuis de ton envie et de ta haine. Fille, tu m'as pris mon fiancé. Femme, tu essaies de me prendre mon mari. Je n'ai pas su garder l'un, je saurai t'arracher l'autre. » « Ah, c'est ainsi !» s'écria Athénaïs, blêmissant de rage. « Eh bien, soit, levons le masque. En vérité, la dissimulation me pèse. Oui, depuis mon enfance, je te rends en haine tout ce que toi et tes pareils vous m'avez prodigué de dédain. Tu m'as écrasé pendant 10 ans de ton nom, de ta fortune et de ton esprit. Eh bien, vois, aujourd'hui j'ai 2 millions, je suis duchesse et tu en es à me demander grâce. » « Prends garde, dit Claire, je ne suis pas d'un sang à me laisser longtemps insulter impunément. » « Et moi, répliqua la duchesse, je porte un nom qui me met au-dessus de ta colère. J'en appellerai de la conduite que tu tiens envers moi. » « À qui ? » demanda Athénaïs en ricanant. « Au monde. » « Lequel ? Le tien où je suis montée ou le mien où tu es descendue ? » À celui, quel qu'il soit, où il y a des honnêtes gens, pour qui respecter les autres est un devoir, et se faire respecter soi-même est un droit. Devant celui-là, entends-tu, je répéterai hautement ce que je viens de te dire. Je te montrerai tel que tu es, et nous verrons si le nom que tu portes, si grand qu'il soit, suffira à cacher ta bassesse et ta fausseté. » La duchesse voulut répondre. Elle chercha vainement dans son cœur enfielé. Ses lèvres laissèrent échapper un sifflement. Réduite au silence, elle tenta au moins d'insulter du geste. Mais elle vit devant elle, Claire si menaçante, les yeux ardents et les mains agitées, qu'elle eut peur. Elle recula et, baissant la voix, « C'est un scandale que tu cherches ? C'est une exécution que je vais faire. Une dernière fois, veux-tu consentir à ce que je te demande ? Non, 100 fois non ! répéta Athénaïs en grinçant des dents. « Alors, tu vas voir !» Des pas faisaient crier le sable de la terrasse et un bruit de voix joyeuse entrait par les fenêtres du salon. Sur le perron, Philippe parut, donnant le bras à la baronne. Le duc, riant avec la braide, suivait, précédant Moulinet qui s'était attaché au baron. Ils virent Athénaïs et Claire, pâles, frémissantes, debout en face l'une de l'autre. L'attitude des deux jeunes femmes était tellement significative que tous s'arrêtèrent pleins de stupeur. Alors Claire, le front haut, sûre de sa conscience, forte des douleurs subies, s'avança au milieu du salon et, désignant Athénaïs d'un geste écrasant, « Duc, emmenez votre femme, dit-elle, si vous ne voulez pas que je la chasse de chez moi devant tout le monde. » Bligny resta impassible. Un pâle sourire glissa sur ses lèvres. Mais Moulinet, n'en croyant pas ses oreilles, hagard, les bras au ciel, s'était élancé. « Chassez ma fille, la duchesse, ma fille » répéta-t-il avec emphase, comme si en elle on eût touché à tout l'armorial de France. Athénaïs, se tournant vers le duc, cria d'une voix perçante « Monsieur, me laisserez-vous insulter de la sorte sans me défendre ?» Bligny fit 2 pas vers Philippe avec un calme parfait. « Approuvez-vous, monsieur, dit-il, ce que Madame d'Herblay vient de dire à la duchesse ? Êtes-vous disposé à vous en excuser ou êtes-vous prêt à en prendre la responsabilité ?» Ce fut net, poli et tranchant comme l'acier. Claire attacha sur son mari des regards pleins d'angoisse. Philippe allait-il la désavouer ou prendre hautement son parti? Elle eut un instant d'incertitude horrible pendant lequel elle souffrit plus qu'elle n'avait jamais souffert. À la voix de Bligny, le maître de forge s'était approché. Sa haute taille se développa dans toute sa mâle vigueur. Il dépassa le duc de la tête, puis, gravement et avec une énergie qui fit tressaillir tous ceux qui écoutaient, « Monsieur le duc, quoi que fasse Madame d'Herblay, quelque raison qu'elle ait pour le faire, je tiens tout ce qu'elle fait pour bien fait. » Le duc salua avec une incomparable élégance. Il se tourna vers la Brède, auquel il fit un signe, et dit « C'est compris !» Puis, offrant son bras à Athénaïs décomposée, il sortit, suivi de Moulinet éperdu et du fidèle La Brède qui murmurait « Diable d'affaire! Deux cousins !» Bligny est l'offensé, il prendra le pistolet. Le maître de forge est un homme mort. Claire, en voyant s'éloigner sa rivale humiliée et vaincue, ne songea pas aux terribles conséquences qu'allait entraîner son coup d'audace. Elle poussa un cri de triomphe et allant à son mari avec une reconnaissance passionnée, « Oh, merci, Philippe » dit-elle, et elle lui tendait vaguement les bras. En un instant, son ardeur tomba. Elle vit son mari redevenu impassible. « Vous ne me devez pas de remerciements, dit-il. En vous défendant, c'était mon honneur que je défendais. » Et Claire, restant muette et sombre, « N'oubliez pas que vous avez des hôtes ici, reprit-il, et qu'il faut que personne ne se doute de ce qui s'est passé. » Il offrit son bras à la baronne, dont les nerfs étaient si ébranlés qu'elle avait à la fois envie de rire et de pleurer. Claire essuya une larme qui glissait sur sa joue et, souriant tristement au baron qui était resté auprès d'elle, « Venez, dit-elle, puisqu'il le faut, allons danser !»